Laudetur Jesus Christus.
Après l'échec du contrat avec les Australiens, Paris cherche à intensifier ses relations existantes dans la région Indo-Pacifique et notamment avec le géant indien. Les deux pays affirment ce mardi leur volonté d'agir conjointement. Les décryptages à suivre. Paris perdu pour Justin Trudeau au Canada. Il avait convoqué des élections anticipées pour reprendre la majorité au Parlement. Mais s'il a réussi à remporter un troisième mandat, la majorité espérée n'est toujours pas atteinte. Et puis en fin de journal, direction la ville de Marib au Yémen. Dans le nord du pays, la ville est le dernier bastion sous contrôle du gouvernement. En 7 ans de guerre, elle s'est profondément transformée. C'est ce que nous racontera Quentin Müller, journaliste français régulièrement sur place.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. Ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies ce mardi à New York. Le monde est déjà au bord du gouffre, a lancé Antonio Guterres, le secrétaire de l'ONU. Nous sommes confrontés à la plus grande cascade de crises de notre vie, a-t-il averti, avant de regretter le manque d'unité au sein de la communauté internationale. Une de ces crises qui s'est invitée à l'Assemblée générale de l'ONU est celle entre la France et les États-Unis. En effet, la rupture du contrat australien sur les sous-marins continue de faire des remous et Paris cherche une solution afin de rattraper ce coup dur pour le partenariat avec l'Australie. Le président Emmanuel Macron s'est donc entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre indien, alors que plusieurs analystes à New Delhi appellent leur gouvernement à profiter de cette occasion pour se rapprocher de la France. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
Après l'échec du contrat australien, Paris cherche à intensifier ses partenariats existants dans l'océan Indien. Pas étonnant donc qu'Emmanuel Macron ait échangé par téléphone avec le Premier ministre Narendra Modi. L'Élysée affirme que le président de la République a évoqué le souhait de la France de renforcer l'autonomie stratégique de l'Inde. New Delhi a lancé en 2015 un programme de construction de sous-marins nucléaires pour moderniser sa flotte, alors que la marine chinoise est de plus en plus présente dans l'océan Indien. Plusieurs analystes à New Delhi estiment que l'échec du contrat australien pourrait persuader la France de transférer des technologies en matière de propulsion nucléaire. Reste qu'il est trop tôt pour voir de tels transferts se concrétiser. Le coût de cette technologie pose problème en Inde où le budget de la défense n'est pas assez élevé pour moderniser des forces armées encore largement équipées de matériel vétuste. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Et toujours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain Joe Biden vient tout juste de prendre la parole. Il a notamment promis plus de moyens des États-Unis pour lutter contre le changement climatique et pour lutter contre la pandémie. Nous y reviendrons demain matin dans notre journal de 8h30 avec notre correspondant à New York. Autre sujet d'inquiétude aux Nations unies, les expulsions massives de migrants haïtiens par les États-Unis, des personnes qui potentiellement peuvent profiter du droit d'asile, rappelle l'ONU. Samedi, le président américain a annoncé qu'il allait accélérer le rythme de ces expulsions par avion. Près de 15 000 réfugiés sont menacés, en majorité des Haïtiens. Une caravane qui survit depuis des semaines dans des conditions inhumaines. Ils sont donc 15 000 abrités sous un pont au Texas. En Afghanistan, le nouveau régime taliban promet que les collégiennes et les lycéennes pourront retourner à l'école aussi vite que possible, a assuré cet après-midi le porte-parole du régime, Zabirullah Mujahid. Pour l'instant, les femmes ont pu retourner à l'université, voilées intégralement et séparées des hommes, mais les plus jeunes sont encore interdites d'éducation. Justin Trudeau reconduit pour la troisième fois au Canada. Le parti du Premier ministre sortant a remporté les législatives tenues hier, sans parvenir toutefois à trouver une majorité. Une demi-victoire donc pour les libéraux, contraints de nouveau à former un gouvernement minoritaire. C'était pourtant pour éviter cela que le scrutin avait été convoqué de manière anticipée. Les explications de Delphine Allaire.
De ce processus électoral déclenché par surprise en plein mois d'août, Justin Trudeau souhaitait faire le pari de la majorité parlementaire. Sa popularité chutait allègrement ces derniers mois. Jusqu'au bout, l'issue du scrutin semblait donc incertaine. Les intentions données encore à quelques heures du vote, les deux grands partis, libéral et conservateur, au coude à coude, autour de 31%. Les Canadiens ont finalement légèrement préféré la continuité, mais sans majorité. Après une campagne très au centre, le chef des conservateurs, lui, a gagné 3 sièges de plus au Parlement grâce au scrutin et regretté annoncé lundi soir que l'élection ait aggravé les divisions dans le pays, dit-il. Selon les analystes, le sentiment qui prédomine pourtant est celui d'avoir assisté à une campagne pour rien, sans gagnant ni perdant, les objectifs des uns comme des autres n'ayant pas été atteints. Car finalement, le résultat du scrutin n'est pas très différent de la composition du Parlement avant sa dissolution au mois d'août.
Delphine Allaire. Tentative de coup d'État ce matin au Soudan, annonce Khartoum. Un groupe d'officiers issus de l'ancien régime d'Omar el-Béchir a tenté de prendre contrôle du bâtiment des médias d'État. Les auteurs du putsch raté ont été arrêtés, informe Khartoum, ajoutant que des officiers impliqués dans le complot ont été suspendus. Et son jeune voisin, le Soudan du Sud, est touché par de graves inondations qui ont mis des centaines de milliers de personnes sur la route. Plus de 420 000 déplacés selon les Nations Unies sur une population de 11 millions d'habitants. Direction maintenant le Yémen. Depuis 7 ans, les combats entre rebelles houthis soutenus par l'Iran et les forces gouvernementales appuyées par l'Arabie Saoudite déchirent le pays. Et malgré des combats intenses, la ville stratégique de Marib, dans le nord, résiste toujours aux rebelles. Marib, cible des convoitises, s'est profondément transformée durant ces dernières années. Elle est passée de 30 000 habitants à largement plus d'1,5 million avec l'arrivée de déplacés internes placés dans des camps de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur de la cité, une cité entourée de montagnes et une région où, malgré les besoins urgents, l'aide humanitaire peine à arriver. Quand Muller est journaliste indépendant, c'est l'un des rares francophones à être parvenu à s'installer légalement sur place. Il revient sur ces transformations de la ville de Marib.
Déjà, pour s'y rendre depuis Seyoun, c'est d'où je suis parti, de l'Est, j'ai pris une route qui était extrêmement gardée. J'ai dû franchir à peu près 40 checkpoints. Et donc, cette route est la dernière qui relie Marib aux autres villes gouvernementales et au reste du pays. Donc, la ville en tant que telle, on a le sentiment qu'elle a explosé en termes de volume, en termes de construction, d'habitation. C'est une ville qui, avant, était relativement petite. Les Maribis m'ont toujours dit qu'avant, c'était une ville avec qu'une seule route. Aujourd'hui, il y a eu énormément de construction puisque au fur et à mesure que les gens se sont enfuis des zones tenues par les rebelles, ils sont venus à Marib et ont construit tout un tas d'habitations et de quartiers informels. Et donc la ville aujourd'hui s'étale à perte de vue. Il y a beaucoup de quartiers qui se résument à des habitations en ciment, pas reliées à l'électricité ni à l'eau courante. Il y a beaucoup de camps aussi, d'immenses camps de déplacés, soit à l'intérieur de la ville sur des zones en friche ou alors qui sont installés à l'extérieur de la ville, donc sur les roches, les flancs des montagnes volcaniques. Donc c'est tellement désertique Marib, quand on s'éloigne de l'irrigation sans l'eau, Marib c'est des montagnes, des collines un peu partout avec beaucoup de roches volcaniques et c'est extrêmement chaud et extrêmement désertique.
Comment l'aide humanitaire se ferait-elle un chemin dans cette ville coupée du reste du pays ?
Elle est très faible, l'aide humanitaire, je ne comprends pas, parce que beaucoup d'ONG ont leur base à Sanaa, dans la partie outils. Donc moi j'ai suivi MSF et Oxfam par exemple. Les rares ONG qui sont dans cette ville-là ont établi des antennes à Marib, mais leurs antennes ne sont pas suffisantes en termes de moyens humains et financiers. Marib, c'est la ville qui a reçu le quart de tous les déplacés du pays. Donc il y a plus d'un million de déplacés rien que dans la ville.
Dans quel état se trouve la population de Marib ? Est-ce qu'elle l'espère encore ?
Il y a quelque chose quand même d'assez incroyable dans cette ville et assez inattendu, c'est que le gouverneur Sultan Al-Arada, qui est gouverneur depuis 2012, il fait un travail phénoménal à Marib, malgré le fait que voilà, il y a beaucoup de déplacés, il y a un budget qui lui est alloué pour le développement qui est quand même relativement ridicule par rapport aux besoins, mais il a déjà réussi à fédérer les tribus qui se faisaient la guerre avant et en faire un pion essentiel de la résistance. Il met l'accent sur le développement de la ville en construisant des écoles pour les réfugiés, en essayant de faire le maximum pour aussi sécuriser la ville, en restructurant les forces de sécurité. Donc malgré le fait qu'elle soit en siège, c'est-à-dire que moi j'ai pu me promener la nuit, etc., sans problème d'insécurité, il a fermé les magasins d'armes dans la ville et surtout il y a une liberté d'expression à Marib, contrairement à tout le reste du pays quasi. Il y a beaucoup de journalistes yéménites qui sont réfugiés à Marib et qui écrivent de manière vraiment très libre sur à peu près tous les partis politiques, sans avoir peur de se faire assassiner. Par exemple, c'est pas le cas à Aden. Il y a un espèce de sentiment, malgré, encore une fois, le fait qu'il y ait beaucoup de déplacés, que la ville, de temps en temps, fasse l'objet d'attaques aériennes de la part des Houthis. Il y a un espèce de sentiment à Marib de, il y a une possibilité, après la guerre, si la guerre se termine, que Marib devienne un exemple pour le reste du Yémen, en termes de liberté d'expression, en termes de développement, en termes aussi de cohésion et d'unité nationale.
Voilà le prochain retour de l'information demain matin à 8h30. Très bonne soirée.